Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC jusqu'à 14h, Motors.
Patrick Rivet. Eh oui, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous et merci de votre fidélité à Motors. J'accueille Jean-Luc Roy. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut Patrick, bonjour à tous.
Salut Jean-Luc, on se retrouve dans quelques instants car si tu veux bien, nous partons à Glasgow, les 25 km au livre. On retrouve Julien Richard.
Oui, dans le Loch Lomond et son eau à 17 degrés, il pleut et les Français, les garçons ont passé la mi-course, ont passé les 15 km maintenant après 2h54 d'effort déjà dans cette eau du Loch Lomond et ils sont bien placés, Axel Raymond et David Aubry en deuxième et cinquième position d'un peloton toujours assez groupé hein, de nageurs. Les filles, elles, ont passé la mi-course il y a 10 bonnes minutes et Lara Grandjean est bien placée en troisième position. L'autre Française, Isapou, est un peu plus en difficulté. Voilà. Après donc maintenant bientôt 3h, encore 2h pour les garçons dans ce lac, dans cette eau du Loch Lomond pour ce 25 km.
Merci Julien, c'est presque inhumain ce que tu nous racontes là. En tout cas, on va bien sûr suivre tout cela de très très près. On va passer donc à notre page Formule 1 avec, c'était l'actu, l'info de la semaine, le rachat de l'écurie Force India. Maureen Lehoux va nous évoquer tout ça.
Eh oui, Force India sort la tête de l'eau, placée en redressement judiciaire fin juillet. L'écurie indienne est reprise par un groupe d'investisseurs. À la tête de ce groupe, un certain Lawrence Stroll, milliardaire canadien et père du pilote Lance Stroll qui court actuellement sous les couleurs de Williams. Stroll s'est également entouré d'experts de la finance, du management et d'industriels pour relancer cette formation. Pour le moment, aucun détail financier n'est sorti sur cette opération, mais grâce à cet investissement, Force India reste une écurie du paddock et peut sereinement se projeter sur l'avenir. Le français Esteban Ocon et le mexicain Sergio Pérez sont les deux pilotes titulaires, mais l'arrivée de Lance Stroll à la tête de l'équipe devrait redistribuer les cartes. Il se murmure que son fils, Lance, pourrait rapidement intégrer les Pink Panthers. Reste donc à savoir qui fera les frais de ce rachat.
Absolument, Maureen. Et justement, c'est tout cela que nous allons évoquer avec Jean-Luc Roy. Rebonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour Patrick, bonjour Maureen, salut à tous.
Bien sûr, c'est rachat donc de Force India. Bon, on s'y attendait, hein, on savait quand même qu'il y aurait rachat. On savait les difficultés dans lesquelles se trouvait l'écurie qui avait été, on va le rappeler d'abord Jean-Luc, la révélation pratiquement de la saison dernière. La quatrième place en Formule 1, on le rappelle encore une fois aussi Jean-Luc, c'est quelque chose d'énorme dans la Formule 1 actuelle, quand on sait que devant, il y a toujours les trois ténors, hein, que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull.
Absolument Patrick, et cette écurie, elle a même réussi à se classer à deux reprises quatrième, derrière comme tu le disais les intouchables évidemment, que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull qui disposent de budgets qui n'ont rien à voir. Alors on savait depuis quelque temps bien évidemment que l'écurie menée par Vijay Mallya, puisque c'est lui Force India, avait des difficultés, et d'ailleurs il avait dû s'associer à un autre Indien, semble-t-il lui aussi en difficulté, puisque l'écurie avait pris le nom de Sahara Force India à un moment, donc il avait eu besoin de capitaux frais. Mais ce qui était fabuleux, c'est que l'équipe britannique, hein, il faut le dire à la base, parce qu'elle est basée en Angleterre évidemment, cette écurie continuait à fonctionner de manière absolument fantastique. Il faut dire qu'elle est motorisée par Mercedes aussi, et qui est toujours, va savoir, le meilleur moteur du plateau. Donc en tout cas on réussissait des exploits, et puis on se rappelle évidemment des passes d'armes entre les deux pilotes, entre Ocon et Pérez, qui a poussé évidemment l'équipe au paroxysme. On a eu des très très beaux morceaux de bravoure l'an dernier.
On avait bien compris aussi que le début de saison de cette équipe était nettement moins flamboyant que la saison passée, et déjà on évoquait quelques soucis financiers. Et puis on sait aussi que pour Vijay Mallya, rien ne se passe véritablement comme prévu. On sait qu'il ne peut plus quitter l'Angleterre, qu'il a des gros soucis financiers, et ces soucis du boss ont entraîné également les soucis financiers de l'équipe. À quel point, on l'a évoqué ensemble dans des émissions précédentes, qu'il y a eu carrément finalement mise sous redressement judiciaire de cette équipe, un petit peu causée d'ailleurs par Sergio Pérez, hein, un des pilotes, qui a voulu éviter justement la faillite complète de l'équipe. Et puis derrière, il y a eu toute la politique Formule 1, avec des équipes qui se sont un petit peu, qui ont un peu évoqué le fait qu'elles ne voulaient pas trop que cette équipe garde ses points, garde son argent, etc. En revanche, ce qui est certain et ce qui est vraiment intéressant pour cette équipe, c'est la vitesse à laquelle les repreneurs se sont posés et imposés et la vitesse à laquelle l'équipe a été rachetée.
Eh bien écoute, il valait mieux, on en est ravis. De toute façon, voir disparaître une nouvelle équipe de Formule 1, disons-le tout net, ça aurait été un drame. D'abord, évidemment, pour l'équipe, pour les membres de l'équipe, mais aussi parce que le plateau, moi je le trouve très maigrichon depuis plusieurs saisons, avec seulement 20 pilotes au départ, donc 10 équipes. On a eu, il y a très peu, hein, la disparition de Manor, etc. Donc ça, c'était quand même la très très mauvaise nouvelle, et c'était pas si ancien que ça, c'était il y a 3-4 ans à peine, et c'était les mêmes administrateurs qui ont été nommés pour Force India. Donc j'oserais dire, enfin les administrateurs, c'est pas eux qui enterrent l'équipe, mais si un peu, parce que c'est eux qui choisissent ou pas le projet que leur présente de potentiels repreneurs. Donc si tu veux, on peut être soulagé que Lawrence Stroll, comme le disait Maureen il y a un instant, le milliardaire canadien, qui est le papa de Lance Stroll, évidemment, donc on a bien compris qu'il allait être le premier pilote certainement.
Oui, il y a des chances.
Il y a des chances. Hein. Après deux saisons chez Williams, celle de l'an dernier qui était pas trop mal, en tout cas sauvée par le superbe résultat en Azerbaïdjan, hein, on s'en souvient, qui était fantastique, et puis deux trois bons résultats. Bon, cette année c'est carrément plus difficile pour Lance Stroll, parce que les Williams sont nulle part, quoi, il faut le dire clairement.
Ouais, c'est clair. Pour conclure sur ce rachat, Jean-Luc, après, la politique va reprendre ses droits. D'abord, déjà une chose intéressante pour tout le monde, c'est que les dettes vont être payées et tous les entreprises qui n'avaient pas reçu l'argent de Force India vont être payées. Donc forcément, première chose, avant même que la politique reprenne ses droits, parce que il y aura peut-être changement de nom, il va y avoir des discussions au sein des équipes de Formule 1. Liberty Media, comme tu viens de le dire, ne pouvait pas se permettre de reperdre et de perdre une nouvelle équipe. En revanche, sur le plan sportif, ce qui nous intéresse quand même un petit peu plus, sans doute que pourrait-on voir des améliorations, des choses qui étaient dans les cartons, apparaître dès le prochain Grand Prix, qui, je le rappelle, est dans deux semaines.
Écoute, c'est clair que quand une équipe comme ça est en difficulté, d'abord c'est très difficile pour les hommes, hein, une équipe de Formule 1, c'est plusieurs centaines de personnes, même si on a dû réduire au maximum le personnel lors des deux dernières saisons, mais bon, c'est globalement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir à moins de 200-220 personnes, et c'est le minimum. Donc c'est évident que ces garçons doivent garder vraiment la motivation au fond d'eux. Et puis, comme tu le disais, les développements en Formule 1, c'est permanent. On apporte de nouveaux ailerons, notamment avant. C'en est même quasiment ridicule. Moi, je le dis aussi carrément. Des bargeboards, comme on dit. C'est-à-dire, on met un aileron en plus. Enfin, bon. Tout ça, ça vole en éclats au premier contact. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Et puis, la monoplace, elle roule pratiquement à la même vitesse qu'avant. Mais bon, passons là-dessus. Donc, faut bien faire un peu de dérision de temps en temps.
Mais oui, il faut.
Donc, c'est clair qu'on va voir apparaître, je pense, de nouvelles pièces. Maintenant, il faut le temps de les dessiner. Ça, ils ont dû le faire, et le temps de les fabriquer. Et puis, on avait quand même remarqué que les Force India étaient généralement un peu plus rapides sur les circuits rapides, justement profitant du moteur Mercedes, et ça permettait de mettre un peu d'appui, donc d'avoir aussi de l'appui dans les courbes grâce à la puissance du moteur. Et on a bien vu que malheureusement, lors du dernier Grand Prix en Hongrie, les deux pilotes, malgré leur talent, qui étaient aux portes de la 10e place en qualif, n'ont pas pu rentrer dans les points en Hongrie. Donc faut peut-être pas attendre non plus une baguette magique.
Non, bien sûr que non.
Ouais, mais ça va revenir.
Alors, une des conséquences quand même de ce rachat par Lawrence Stroll, c'est quelque part un petit peu aussi, on peut s'interroger, voire s'inquiéter, je dis bien s'inquiéter, Jean-Luc, de la suite pour l'écurie Williams, l'écurie de Sir Frank Williams, dirigée par sa fille Claire, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la tourmente. Est-ce que la tourmente peut se transformer en ouragan? Parce que c'est un petit peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Eh ben, tu sais, il y a une spirale du succès et malheureusement, il y a une spirale de l'échec. Il faut justement rappeler que cette équipe Williams avait occupé le 4e rang du championnat, mais ça paraît tellement loin maintenant, c'était il y a 3 saisons. Et là, elle est au fond du trou. Elle est vraiment, ils ne parviennent pas à décrocher de résultats. Alors évidemment, comme on a eu recours, bah, il faut le dire crûment aussi, à deux pilotes payants, hein. On vient de le dire, Lance Stroll, dont le papa était supposé avoir apporté quand même la bagatelle de 40 millions de dollars pour la saison. C'est quand même pas rien du tout. Et puis le jeune Suisse Sergei Sirotkin, qui est pas forcément mauvais, mais qui débute en Formule 1. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que moi j'ai vraiment une tendresse et un attachement particulier pour Frank Williams, qui est un des derniers survivants, sinon le dernier, de la Formule 1 telle qu'on a connue dans les années 70-80, où c'était mené par des passionnés avant d'être mené par des businessmen et par des hommes du marketing. Bah, voir l'équipe de Frank Williams et de Claire Williams, bon, à ce niveau-là, je crois que ça dépasse le cas de Claire d'ailleurs, hein,
parce oui, bien sûr.
Évidemment qu'elle doit prendre tous les conseils de son papa, tu vois, qui est toujours là. On sait que bon, Frank malheureusement est très handicapé depuis 1986, hein, on s'en souvient, mais il était présent sur les circuits, il est moins aujourd'hui, puis écoute, l'âge est là aussi. Je pense que Frank, qui a toute sa tête, doit continuer à conseiller Claire, mais là on est dans un gros business maintenant. La Formule 1, faut quand même le dire et le répéter à chaque fois, c'est un énorme business
bien
avant
sûr,
tout.
Bien sûr, et la preuve que c'est un business, c'est que à un moment donné, on se rappelle l'an dernier, c'est l'ancien ingénieur de Mercedes, Paddy Lowe, qui est parti diriger aussi techniquement cette équipe Williams. On se disait, ben tiens, Mercedes quelque part mise aussi sur cette équipe Williams, et c'est Williams qui va devenir une sorte d'équipe Mercedes-Benz. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression, et d'ailleurs c'est pour cela que Williams, Renault et McLaren s'en sont un petit peu inquiétés il y a environ deux semaines, on a l'impression que c'est plutôt Force India qui pourrait jouer ce rôle d'équipe Benz, d'équipe soutien de Mercedes en Formule 1.
Tu as raison, Patrick. De toute façon, ce principe des équipes juniors en Formule 1, moi, je vais te dire, je le trouve excellent. Je plaide pour ça, mais vraiment. Pourquoi? Parce que, bah, comme un moto, hein, si tu prends
bien sûr.
Et là aussi, il y a un Grand Prix moto, évidemment, qui déroule aujourd'hui, on sait bien, du côté de l'Autriche, hein, sur le Red Bull Ring, avec, tiens-toi bien, 2 millième d'écart entre le Poleman Marquez et le deuxième Joe.
Ouais.
Bon, je sais que tu vas en parler tout à l'heure.
Oui, absolument.
Je vais pas déflorer le sujet. Mais, c'est clair que avoir des équipes premières, premium, on va dire, et puis des équipes deuxième qui permettent de faire monter des jeunes pilotes et de développer, bah, je trouve ça très très bien. Alors il en faudrait encore une fois plus, il faudrait une bonne douzaine d'équipes sur la grille, et comme ça on aurait 24 voitures et ça ferait de la place pour les jeunes pilotes. Donc tu as raison, Williams est peut-être doublement en danger, parce qu'on va perdre la manne de Lawrence Stroll, évidemment, qui va mettre tout son argent chez Force India. On va perdre un pilote, et je sais pas ce qui va advenir de Williams. Est-ce qu'on avait fait le bon choix en ne faisant pas rouler aussi Robert Kubica, dont tu le sais, qui avait fait des essais d'intersaison qui étaient pourtant très probants? Je pense que oui, il y a peut-être eu une erreur de calcul, et puis malgré le talent, parce qu'il n'est pas devenu mauvais, hein, Paddy Lowe, c'était quand même un des responsables de la réussite de Mercedes dans les saisons toutes récentes. La Formule 1, c'est tellement complexe que t'as l'impression que même les responsables eux-mêmes sont incapables de mettre le doigt sur le problème qu'ils rencontrent, et c'est le cas chez Williams.
Absolument, et c'est peut-être pour cela qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais pour 2021 et pour les futures règles, il va peut-être falloir revoir un peu plus en globalité le règlement sportif et technique de la Formule 1, réduire un petit peu les effectifs, empêcher peut-être cette montée en puissance de la haute technologie, cette montée en puissance également de l'aéro et des souffleries. Il faudra peut-être revenir à des budgets un peu plus simples qui permettraient justement à des équipes comme Williams, avec un Paddy Lowe à sa tête techniquement, bah de surnager plus que de couler.
Ben écoute, la Formule 1, elle a eu la folie des grandeurs, elle l'a toujours eu, mais là ça devient complètement démentiel. C'est-à-dire que maintenant, ben, les budgets, on peut même pas dire véritablement que, pour ça qu'il était question de les caper, comme on dit, c'est-à-dire de les limiter, de dire allez, on va mettre ça à 150 millions. Mais ça ne veut rien dire. Quand tu as des centaines d'ingénieurs chez Mercedes, chez Ferrari, chez Honda, où tu veux qui développent des moteurs, comment veux-tu qu'on limite les budgets? Il faut compter ces gens-là, il faut pas les compter, il faut compter les heures de soufflerie, il faut compter l'engineering, il faut compter. Donc si tu veux, c'est impossible de caper les budgets. Ben, en fait, il faut repartir à la base, revenir aux fondamentaux, faire des règlements simples, avec des moteurs simples, avec des interdictions précisément de développer sans arrêt des éléments aéro, pour figer l'aéro, hormis peut-être, on va dire, l'aileron arrière et puis 2-3 détails à l'avant, et puis tu vas voir que les budgets, comme en IndyCar par exemple, eh ben évidemment, vont devenir tout à fait supportables.
Et Jean-Luc, une dernière question avant de que l'on passe déjà faire un petit point sur le trafic et puis que l'on se retrouve dans French's Corner pour évoquer justement Esteban Ocon et son avenir et également son début de saison. Une dernière petite question peut-être concernant Sergio Pérez, il a sauvé sa tête.
Ah, je pense que oui, parce que c'est lui le déclencheur, hein, comme on l'a su, on l'avait déjà précisé la semaine dernière, à travers. Alors, faut savoir que le montage financier, c'est toujours le même, hein, pour les pilotes à budget, et c'est pas du tout méprisant. Pérez, il a également des soutiens mexicains très puissants, il apporte aussi beaucoup d'argent, donc, dans l'équipe, et il doit être payé, il a un salaire, et ce salaire, il ne percevait plus, alors que ses annonceurs avaient, eux, honoré leurs engagements. Donc, il y avait un vrai problème. Donc, c'est lui qui a quelque part crever la bulle, crever le ballon. Il a dit maintenant c'est plus possible, il y a trop d'argent dehors. Faut savoir que Mercedes également était l'un des créanciers, hein, pour de l'ordre de 10 à 12 millions d'après ce qu'il disait. Donc si tu veux, on a fait péter la bulle. Mais oui, c'est clair qu'on a fait éclater on a permis l'arrivée de Lawrence Stroll. Et comme tu l'as souligné, comme Maureen l'a dit tout à l'heure, il y a tout un tas de monde autour de lui. Il n'est pas tout seul, hein, apparemment. Il y a des gens même de Hong Kong, on a vu ça. Enfin, tout un tas d'identités un peu différentes. Bah, écoute, tant mieux si ça permet de sauver une équipe de Formule 1, voilà.
Merci Jean-Luc, tu restes avec nous bien sûr, tout à l'heure on se retrouvera dans French's Corner.
RMC jusqu'à 14h, Motors.
Reste avec nous dans quelques instants Motors, mais tout de suite on repart vers Glasgow, retrouver Julien Richard, ça se passe pas mal pour les Français Julien.
Oui, après 3h23 maintenant de course dans ce 25 km d'eau libre, les deux Français sont en tête et ils sont en train de durcir la course. On a passé les 15 km, c'est généralement là que ça se passe, hein, que notamment Axel Raymond, qui est champion d'Europe en titre, double champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, eh bien choisit de durcir la course. Et David Aubry suit bien lui aussi, attention aux Hongrois, Razowski très fort. Les filles, elles, vont passer aux 15 km et elles sont dans le paquet, les deux Françaises, Lisa Pou et Lara Grandjean.
Merci Julien, on croise les doigts, eux n'ont pas le droit de le faire. Et puis dans quelques instants, même tout de suite, on va évoquer le cas des pilotes français.
RMC Motors, le French's Corner.
Et je retrouve Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Rebonjour. Si vous nous rejoignez, Jean-Luc est là avec nous pour bien sûr évoquer le cas des pilotes français qui sont actuellement très liés justement à l'avenir de leur équipe actuelle, au rachat, à des changements de pilotes et des transferts. On a évoqué celui de Daniel Ricciardo la semaine dernière, Jean-Luc, qui forcément va peut-être modifier la stratégie et l'avenir de Pierre Gasly. Qui mériterait franchement, on l'a évoqué, de se retrouver la saison prochaine titulaire chez Red Bull. Et ce d'autant plus, on avait évoqué ses liens avec Honda. On se rappelle aussi qu'il fut pilote Honda en Super Formula au Japon. Donc, vive Pierre Gasly chez Red Bull, Jean-Luc.
Écoute, ce serait absolument génial parce qu'effectivement, c'est le mieux placé, moi je le dis. Alors, il y a toujours Carlos Sainz Jr., dont on le sait qu'il a été éjecté naturellement de l'équipe Renault, hein, ça c'était un petit peu logique, on s'y attendait après ce recrutement surprise de Ricardo qui démontre les ambitions de l'équipe française. Et Carlos Sainz est toujours lié à Red Bull dans son ensemble, comme il l'est depuis le début de sa carrière quasiment en monoplace. Mais voilà, ils ont une option jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est demain, hein, c'est dans 6 semaines seulement, et on saura s'ils activent ou pas cette option qu'ils ont sur lui. Donc ça pourrait profiter à Pierre Gasly qui, comme tu le soulignes, d'abord fait un parcours absolument sans faute depuis qu'il a débarqué en Formule 1 avec le matériel dont il dispose au sein de cette équipe Toro Rosso Honda et qui a dû peser, je l'imagine, dans les décisions, non pas lui évidemment en décidant que le moteur Honda allait motoriser Red Bull, mais ses contacts, son suivi, la manière dont il travaille, ce qu'il est parvenu à faire de ce moteur dans le châssis Toro Rosso, bah moi je pense que c'est le candidat idéal effectivement pour le faire monter chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Et là je peux te dire qu'on va avoir des belles émotions.
Effectivement, et puis on va aussi évoquer le cas, justement, on parlait tout à l'heure de Force India. Il a été la révélation la saison dernière. Il faisait partie, il fait encore partie de cette équipe Force India. Il a un début de saison un petit peu plus compliqué. Je parle bien sûr d'Esteban Ocon. Qu'en est-il donc de l'avenir d'Esteban Ocon? Je rappelle qu'il a à un moment donné été en contact avec Renault. Et justement, si tu veux bien, on va revenir sur ce que disait à propos des relations Esteban Ocon-Renault. On va réécouter Cyril Habitboul, si tu veux bien.
Nous-mêmes, nous n'avons jamais directement confirmé cette possibilité d'Ocon, mais même si effectivement Esteban était sur notre shortlist et depuis longtemps. On avait essayé l'année dernière, ça n'avait pas fonctionné. Esteban aurait été chez nous justement prêté par Mercedes, avec tout ce que cela implique. Et finalement, Daniel Ricciardo était la seule option, en plus d'être, je pense, la meilleure, la seule option d'un pilote complètement libre qui devenait un pilote 100% Renault. Et c'est ce qu'on est en droit de prétendre à ce stade de notre développement.
Voilà donc le pourquoi du comment par rapport donc à l'engagement de Daniel Ricciardo et donc la position de Renault F1 Team sur Esteban Ocon. Alors, plusieurs questions se posent, bien sûr. Jean-Luc, on l'a dit tout à l'heure, on a du mal à imaginer, déjà, c'est la première question que l'on peut se poser, qu'il reste pilote Force India.
Écoute, oui, là dans le contexte, ça paraît effectivement difficile, puisque on l'a évoqué il y a quelques minutes, Pérez a priori devrait conserver son baquet pour plusieurs raisons. D'abord, il est performant. Faut rappeler qu'ils ont tous les deux 29 et 30 points au championnat du monde. Donc évidemment, on peut pas être plus proche l'un de l'autre, sinon ce serait l'égalité parfaite. Et s'ils n'ont pas de meilleurs résultats, c'est parce que la monoplace leur a pas permis. L'an dernier, ils se sont arsouillés dans le bon sens du terme et se sont tous les deux poussés vers le haut, ce qui a bénéficié à l'écurie. Donc oui, je pense que Sergio Pérez est inamovible. Il faut rappeler qu'également Esteban Ocon est dans le giron de Mercedes. Donc c'est un pilote Mercedes. Et Cyril Habitboul vient de le rappeler dans l'intervention que tu nous as fait écouter. C'est-à-dire que le problème d'Esteban, c'est qu'il aurait été prêté par Mercedes à Renault. Et ça, Renault n'en voulait pas. Puisqu'ils ont déjà un prêt avec Carlos Sainz, un prêt de Red Bull. Ils voulaient quelqu'un qui puisse s'engager totalement. Or, ça n'était pas le cas d'Esteban, qui n'était pas libre de ses mouvements. Donc, voilà, le problème pour Esteban aujourd'hui, avec son talent, et je peux te dire qu'il va être motivé comme jamais pour la deuxième partie de la saison, qui va démarrer à Spa-Francorchamps, donc pour le dernier week-end du mois d'août, il faut qu'il prouve ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il est toujours très rapide, et peut-être plus rapide que Pérez. Alors, où peut-il aller? Il faut regarder le jeu des chaises musicales. Où peut-il aller? Quelles sont les capacités? Il y a encore pas mal d'inconnus. Je rappelais, il y a quelques semaines seulement, pour le dernier Grand Prix, qu'il n'y avait que 6 baquets véritablement d'attribués au sein de la Formule 1. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on en suppose quelques-uns de plus. Ricardo, notamment, on sait ce qu'il va faire. On imagine que Carlos Sainz ne va pas se retrouver à pied, mais bon, va savoir. C'est clair qu'il ne va pas falloir qu'Esteban Ocon arrête de danser, si tu vois ce que je veux dire, quand la musique s'arrêtera.
Exactement. Alors moi, la deuxième question, c'est évoquer quelque chose qui pourrait presque être simple, c'est-à-dire un échange entre Lance Stroll et puis Esteban Ocon, qui est donc pilote Mercedes, qui pourrait trouver refuge chez Williams, dont on parlait tout à l'heure et dont on évoquait la situation un peu délicate. Mais, il faut être positif, un pilote comme Esteban Ocon peut apporter beaucoup à Williams.
Écoute, là c'est pas au contraire, c'est reconnaître ses qualités que de dire que ça, je me lance, il ferait mieux que Lance Stroll et Sergei Sirotkin au volant d'une Williams. Voilà, là on est d'accord, déjà ça c'est fait. Ensuite, ils ont touché le fond, tu sais, c'est comme le principe de la piscine, quand tu descends jusqu'au fond, maintenant tu mets une sacrée impulsion et tu remontes vers la surface. Donc effectivement, c'est intelligent, why not? Ce serait une super idée, d'autant que la motorisation est bien sûr celle de Mercedes. Donc il faut y croire, et ça pourrait permettre effectivement à Esteban Ocon de rester dans le giron de Mercedes, de monter dans une équipe qui a quand même été une équipe absolument formidable, qui a enfilé les titres de champion du monde comme des perles encore dans les années 90. Et avec un type comme Paddy Lowe, ce serait une super belle solution pour Esteban Ocon.
Allez, moi je vais aller encore plus loin. On pourrait presque en reparler dans quelques semaines, quelques mois, en début de saison prochaine. Kubica, Ocon chez Williams, et l'équipe remonte.
Génial. Écoute, Kubica, il faut qu'il s'y remette, mais ouais, et puis en plus, ce serait une équipe du cœur, tu vois.
Pour que l'on connaît.
Robert Kubica, le Polonais, on s'en souvient, écarté de la Formule 1, avec cet accident en rallye en Italie, c'était tellement ancien déjà, alors qu'il était promis un avenir, mais magnifique en Formule 1, qu'il a démontré, même en conduisant le pauvre quasiment d'un bras, mais heureusement pour lui, les monoplaces sont, j'ose le dire aujourd'hui, plus faciles à conduire avec les directions assistées, avec les vitesses au volant avec etc. Je pense que dans les années 70 ou 80, malheureusement, dans, compte tenu de son état, il n'aurait pas pu aller aussi vite. Là, il a démontré en essai privé qu'il était capable d'aller au moins aussi vite que les pilotes actuels, donc ce serait génial. Écoute, un Kubica qui revient aux affaires pour le cœur et pour la passion, et puis un Ocon chez Williams et vogue la galère, mais dans le bon sens. Cette
oui, fois. Exactement, on oubliera la galère, justement, et on mettra les voiles pour remonter vers les places d'honneur, et en tout cas vers les points, parce que c'est ce qui manque le plus à cette équipe Williams. On parlait de Kubica, ce n'est pas pour rien que je l'ai évoqué, c'est parce qu'il lui-même dit que, entre le moment où il est remonté dans une Formule 1 et aujourd'hui, il y a eu un énorme progrès et ne l'oublions pas, et on pourrait presque dire ne l'oublions pas non plus pour la deuxième partie de saison qui va débuter en Belgique.
Écoute, il doit ronger son frein, le pauvre Robert Kubica, qui en plus sait tenir sa langue, parce que évidemment que les séances d'essai auxquelles il participe pour l'équipe Williams permettent d'améliorer considérablement la voiture. Lui, il n'est pas là pour se mettre en avant, et en plus c'est un type qui est fondamentalement honnête et correct intellectuellement. Il n'est pas question d'assassiner entre guillemets les jeunes pilotes en disant bah voyez, je suis beaucoup plus rapide qu'eux. Non, il fait le boulot, il fait de la mise au point, il fait du développement, il donne des conseils, il est dans son rôle de pilote de réserve, mais tu as raison, en plus ce serait une récompense fantastique, même si on sait que Frank Williams n'a pas toujours été tendre hein, avec ses pilotes, tu t'en souviens comme
oui, bien
moi,
sûr, oui, c'est clair.
On se rappelle qu'il y a, je vais remonter au début des années 80 quand Jacques Lafitte était allé deux saisons,
ça s'est très très mal placé avec Keke Rosberg, tout à fait.
Ah ouais, c'était du feu. Donc c'est pas toujours un pilote qui a été très humain avec ses pilotes, mais c'est un dur à cuire, et si Esteban Ocon et Robert Kubica pouvaient contribuer à la remontée de l'équipe Williams dans les classements, ce serait absolument génial.
Dernière quand même possibilité pour conclure sur Esteban Ocon, les rumeurs aussi, hein, puisque tu sais ça n'arrête pas, y compris pendant les semaines de vacances.
C'est la silly season.
Voilà la fameuse saison folle. Mais continuons là avec pourquoi pas. Alors ça serait peut-être encore une fois un prêt, mais ça serait un prêt qui remonterait de loin, puisque on parle de McLaren carrément.
Oui, écoute, pourquoi pas, parce que effectivement, du côté de McLaren, on ne sait pas du tout où on va pour le moment. Tout le monde est pendu à la décision de Fernando Alonso. Restera-t-il? Ne restera-t-il pas? Son contrat s'interrompt à la fin de la saison. On sait qu'il avait accepté de rester encore, mais bon, je pense que le pauvre, il commence à désespérer des réelles capacités de l'équipe McLaren, elle aussi, à remonter aux avant-postes, hein, parce que McLaren avait tellement craché sur le moteur Renault, on voit bien que sur le moteur, pardonne-moi, Honda, on voit bien qu'avec le Renault, on fait un petit peu mieux, mais c'est pas terrible non plus, malgré le talent de Fernando Alonso. Je pense que le pauvre Stoffel Van Dorn, notre ami belge, ses jours sont comptés, ça c'est clair. Alors viendrait-il, y aurait-il un jeune pilote aux côtés de Fernando Alonso qui resterait, ou bien y aurait-il deux paquets qui pourraient se libérer chez McLaren? Je pense que là, à la rentrée, on va savoir, hein, parce que là, on peut pas attendre plus longtemps. La décision d'Alonso, d'une part, c'est lui qui règle la course, et savoir si à ses côtés, il y aura Sainz, pourquoi pas, ou Ocon, pourquoi pas.
Effectivement, on peut penser quand même que les pilotes qui vont devoir, on ne cesse de le répéter, te retrouver toute l'équipe sur la radio de la Formule 1 à partir du Grand Prix de Belgique, ont plutôt envie d'entamer cette partie de saison primordiale pour les résultats, primordiale pour eux, en sachant un petit peu quel sera leur avenir. Donc c'est vrai que d'ici la Belgique, on devrait, et j'espère qu'on aura des informations sur tous ces transferts et sur la suite à donner, que ça soit chez McLaren, chez bien sûr Force India, par Renault bien sûr, puisqu'on en a parlé. Mais voilà, donc c'est clair que d'ici au Grand Prix de Belgique, on aura des réponses à vous apporter.
Il en reste pas mal, hein, des baquets à pourvoir, tu vois. McLaren, c'est quand même pas rien. Williams, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, Force India, tant que c'est pas confirmé, tu vois, l'expérience de Ricardo a prouvé que tout n'est pas toujours écrit à l'avance, hein.
Effectivement, Jean-Luc, c'est bien pour ça que l'on se retrouvera la semaine prochaine pour évoquer tout cela. Merci encore, Jean-Luc.
Avec plaisir.
Et dans quelques instants, nous allons retrouver un quintuple champion du monde des rallyes, un pilote qui se bat pour un sixième titre, Sébastien Ogier.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 10, droite 120.
Le briefing.
Le briefing, effectivement, avec donc notre invité d'honneur, Sébastien Ogier. Bonjour Sébastien.
Bonjour, salut à tous.
Merci de nous retrouver fidèles du mois d'août sur RMC. L'actualité pour toi, bien sûr, je le disais, c'est comme toujours le championnat du monde des rallyes. Mais je vais débuter par, non pas une petite récréation, mais un essai que tu as mené cette semaine. Tu as essayé une Mercedes du championnat allemand de tourisme DTM. Donne-nous un petit peu tes sensations et tes impressions.
Ah bah c'était clairement une expérience très intéressante pour moi parce que c'était tout nouveau, forcément très différent d'une voiture de rallye et du coup je me suis un peu retrouvé dans la peau d'un débutant qui a tout à apprendre et du coup j'ai trouvé cette expérience enrichissante et ouais très intéressante. J'avais un pilote avec moi qui s'appelle Mortara, qui lui fait le championnat toute l'année, donc du coup ça faisait une bonne référence et il m'a donné plein de petits conseils parce que c'est vrai qu'il y a une opportunité qui s'approche pour moi, qui va se dérouler fin septembre. Je vais participer à une des courses du championnat DTM, alors ça va être clairement un gros challenge et un week-end assez difficile, mais du coup pendant ces deux jours de test j'ai essayé d'apprendre le plus vite possible.
Oui, c'est vrai que tu ne choisis pas la facilité, c'est vrai, puisqu'on l'a souvent vu hein, par le passé, des pilotes qui arrivent en DTM ont parfois, y compris des pilotes de Formule 1, y compris des pilotes d'endurance, ont parfois des difficultés à s'adapter à ce type de championnat. En tout cas, voilà, ce sera sur une Mercedes que tu as fait, que tu feras cette course. Tu seras invité par Mercedes à l'occasion de l'avant-dernière manche de la saison en Autriche. Il y aura d'autres possibilités éventuellement d'essayer la voiture d'ici là?
Non, d'ici là, il y aura plus de possibilités, d'autant plus que le championnat WRC est assez intense en ce moment, donc avec l'Allemagne la semaine prochaine et puis la Turquie trois semaines plus tard. Donc non, il n'y aura pas d'autres possibilités, mais moi j'y vais sans pression, honnêtement j'y vais pour me faire plaisir. C'est vrai que c'est un championnat de spécialistes hyper spécifique et il y a énormément de très bons pilotes dans ce championnat et on voit souvent effectivement qu'ils ont que ça nécessite pas mal de temps avant d'arriver à dompter ce championnat ou ces voitures, mais voilà, moi j'y vais pour me faire plaisir avec l'objectif avant tout de voir où je me situe par rapport à eux, mais c'est clair que il y a de fortes chances que ça soit derrière pour le moment mais voilà, j'espère que malgré tout le plaisir sera là.
Eh ben forcément le plaisir sera là, mais est-ce qu'il y a une petite idée derrière la tête de savoir allez pourquoi pas commencer à essayer d'autres disciplines du circuit pour une possible reconversion dans le futur?
Bah, honnêtement, cette opportunité est arrivée un petit peu par hasard. Ma femme travaillant sur le DTM depuis cette année en tant que présentatrice pour la télé allemande. C'est vrai que je suis allé quelques fois avec elle sur les courses et puis...
On a une petite coupure avec... il est revenu, voilà.
Ah.
Ouais, vas-y,
pardon,
ouais, c'est bon, ouais, tout à fait.
Ouais, non. J'ai pas bougé, mais le réseau est parti. Donc je disais, non, c'est arrivé un petit peu par hasard, comme ma femme travaillant sur le DTM cette année pour la télé allemande, je suis régulièrement avec elle sur les week-ends de course, et c'est vrai que le boss, on va dire, de la série, c'est Gerhard Berger, et c'est lui qui a eu l'idée de m'inviter sur une course pour faire une promotion un petit peu différente, on va dire, du championnat. Et du coup, j'ai accepté tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un championnat intéressant avec des voitures ultra performantes et j'ai forcément beaucoup à apprendre, donc il y a pas vraiment d'idée derrière cette piste pour le moment.
Sébastien, on va revenir à l'actu. C'est effectivement le championnat du monde des rallyes parce que c'est deux jours d'essai, c'est presque une récréation donc, ont été suivis également de travail un peu plus spécifique en vue du rallye d'Allemagne qui se déroule la semaine prochaine avec là cette fois-ci au volant de ta voiture du championnat, la Ford Fiesta WRC.
Oui, c'est vrai que c'était une semaine intense en termes de pilotage puisque donc ouais, deux jours dans la voiture DTM suivi de deux jours dans la Fiesta WRC. Les essais sont bien passés, les sensations sont assez bonnes et c'est clair que après un rallye de Finlande difficile, on espère clairement pouvoir rebondir et être de retour aux avant-postes en Allemagne sur une surface où la Fiesta devrait quand même mieux fonctionner et qui en tout cas nous a bien réussi depuis le début de l'année puisque jusqu'ici on a gagné
les deux rallyes asphalte, bon, le Monte Carlo et la Corse. Donc j'espère qu'on sera de nouveau capable de se battre aux avant-postes en Allemagne.
C'est une déception pour toi, le déroulement de ce rallye de Finlande avec l'incapacité de se battre véritablement à la régulière, avec tous ces soucis d'adhérence, ça s'est mal passé, quoi, en fait.
Clairement, un week-end où on n'est pas capable de faire de temps, c'est toujours décevant, hein, c'est sûr. Après, le seul positif qu'on peut retirer de la Finlande, c'est que malgré tout, on a marqué plus de points que Thierry sur ce week-end-là, et donc malgré tout, c'est toujours bon pour le championnat, mais c'est vrai qu'on espérait forcément se battre beaucoup plus haut que ce que l'on était, et on a tous été incapables. Alors moi, parce que j'avais un petit peu été gêné sur le début de course par nos évolutions aéro qui n'étaient pas hyper adaptées finalement et qui déséquilibraient beaucoup la voiture sur tous les jumps ou tous les sommets, on va dire. Mais le mal était plus profond parce que mes coéquipiers n'ont pas été capables non plus de faire aucun temps, et dont Suninen qui clairement, un Finlandais à la maison, ça va toujours vite. Donc il joue un petit peu sa saison sur ce rallye. On peut être sûr qu'il aurait eu l'envie de faire beaucoup mieux aussi. Même l'année dernière où c'était son premier rallye au volant d'une WRC, il avait fait des meilleurs temps et joué aux avant-postes. Il avait manqué de peu le podium. Donc non, je pense qu'on... Je sais pas, il y a quelque chose qu'on est toujours en train d'essayer d'analyser. On n'a pas très bien compris pourquoi sur ce rallye-là en particulier, les festas étaient clairement pas d'un coup.
Les symptômes ressentis sur la terre en Finlande peuvent-ils se reporter ou pas sur l'asphalte un peu glissante quand même du rallye d'Allemagne?
Je pense pas, non. Honnêtement, c'est vrai, deux rallyes qui ont pas grand chose en commun. Donc non, les tests là, comme je disais, se sont très bien passés. Cette fois, j'ai pu rouler les deux jours complets avec le nouveau package aérodynamique qui, je pense, sur l'asphalte devrait m'aider un petit peu, mais comme on dit, c'est pas ça non plus de toute façon qui révolutionne la voiture. Je pense que en Finlande, on avait clairement un problème au niveau du châssis, au niveau du grip.
Ah, on a reperdu Sébastien. Ah. Voilà, le revoilà.
Bon, ça veut pas.
C'est ça.
Je ne bouge pas la minivan.
Mais oui, mais moi non plus, je te signale.
Mais bon, désolé. Non, en tout cas, je disais que non. Je pense que le rallye d'Allemagne devrait bien se passer. Les soucis de grip qu'on avait en Finlande sur la terre n'ont aucune raison de se reproduire sur l'asphalte allemand.
Je reprends le championnat du monde, l'état actuel de son championnat. 8 courses, 3 victoires pour toi, 3 victoires pour ton adversaire principal, Thierry Neuville, qui est en tête avec 21 points d'avance. C'est 21 points de déficit. À quel moment si tu regardes dans le rétro, tu les regrettes? En Finlande, au Portugal, à quel endroit tu te dis là, franchement, j'aurais préféré marquer des points? Le Portugal, peut-être?
Ouais, disons que c'est la seule vraie erreur que j'ai fait cette année, c'est le Portugal. C'était pas une très grosse erreur, mais je l'ai payé cash. Et c'est vrai que dans le même temps, Thierry a eu une victoire assez facile, j'ai envie de dire, avec tout un premier jour de course qui a été une hécatombe presque totale, on va dire. Tout le monde a abandonné et du coup, il s'est retrouvé assez facilement en tête. Donc c'est vrai que c'est un rallye où clairement, on a manqué une opportunité de d'aller chercher des gros points. Après, pour le reste, franchement, j'ai l'impression d'avoir tout donné. Bon, il y a la Suède qui est un regret sans en être un. Je veux dire, la position a été hyper handicapante. J'avais pas pu marquer aucun point, ou très peu en tout cas. Mais sinon, j'essaie toujours de tout donner, comme je dis. Et la saison est malgré tout encore là. On a 5 courses, il y a beaucoup de points à distribuer. Donc, faut pas s'affoler. Et sur les 5 rallyes à venir, il y en aura encore quelques-uns où le balayage risque d'être assez pénalisant pour le leader du championnat, donc on va encore avoir des opportunités de se refaire.
Bien sûr, et comme toujours, dans ces cas-là, on se retrouvera pour célébrer un 6e titre. Ça ne sera peut-être pas forcément le plus facile à aller chercher, celui-là, Sébastien.
Bah, en tout cas, c'est la première fois qu'on est un petit peu plus dans une position du chasseur, on va dire. Et c'est vrai que ces dernières années, c'était plutôt l'inverse. On faisait la course en tête et bon, la difficulté, comme je disais, c'était d'ouvrir la route tout le temps et de malgré tout marquer des gros points sur ces rallyes où en partant on avait peu de chances de victoire. Maintenant, en étant deuxième, les opportunités sont normalement meilleures pour marquer des gros points sur chaque week-end. C'est pour ça qu'il va falloir les saisir, mais dans le même temps, on n'a pas de joker. Cette année, il va falloir être fort sur la deuxième partie de saison et on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est un challenge excitant.
Effectivement, tu me vois venir aussi, je ne pourrais pas conclure cette interview sans évoquer l'avenir. On a vu passer quelques réflexions venant en particulier de Pierre Budard, le nouveau patron de Citroën en rallye, qui évoque le fait qu'il discuterait ou qu'il aimerait bien en tout cas discuter avec toi, puisque par contrat, bien, tu seras libre à la fin de cette saison 2018. Quid donc de l'avenir, si tant est que tu peux en parler un petit peu, et est-ce imaginable que tu puisses changer d'équipe?
Bah, vous en doutez, à l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour vous dire quoi que ce soit. Maintenant, oui, je ne cache pas qu'on a eu des discussions, avec Pierre Budard chez Citroën. Mais je suis aussi toujours en discussion avec mon équipe actuelle, où j'ai toujours... dit que je me sentais plutôt pas mal. Maintenant, l'important c'est d'être performant, hein. C'est le paramètre numéro un qui me fera choisir mon futur, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va dire, en tout cas si on prend la dernière course, Citroën a marqué des points et nous on en a pas très haut marqué, comme je disais, l'Allemagne arrive à grands pas, j'espère être capable pour moi à nouveau avec ma Fiesta, et j'espère aussi être assez rapidement capable de vous en dire plus sur mon avenir.
Eh bien, on prend rendez-vous, Sébastien. Je te remercie encore une fois de ta fidélité dans ces mois d'août. Cela fait déjà quelques années que l'on se retrouve comme ça, à discuter, à évoquer le présent et l'avenir avec toi dans ces mois d'août. Merci encore. Un grand bonjour également à Julien Gracia, puisqu'on n'oublie jamais Julien, même si on l'a pas au téléphone. On pense à lui, bien sûr.
Vous donnerez son numéro la prochaine fois que t'appelles Julien.
Et voilà, d'accord. Merci, pas de problème. Merci encore et bon rallye d'Allemagne.
Merci beaucoup, à bientôt.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h Motors.
Mais on repart tout de suite à Glasgow, retrouver Julien Richard, le 25 km au libre.
3h38 que les garçons sont partis dans ce 25 km et que les filles également sont dans l'eau. Les filles qui ont franchi 16 km 150 de course, et les Françaises sont dans le coup, hein. Lisa Pou et Lara Grandjean sont dans le paquet, toujours un peloton relativement serré, même si ça commence à accélérer, hein. C'est à ce moment-là de la course, après les 15 km généralement, qu'il se passe beaucoup de choses. Les garçons, eux, ne vont plus tarder à arriver aux 19 km, donc dans cette course après 3h38 déjà d'effort. L'eau est à 17 degrés, dehors il fait 14 degrés, il pleut. Alors vous allez me dire que bon, ben les nageurs, ça les dérange pas trop, certes, mais les conditions sont vraiment extrêmes ici en Écosse pour ce 25 km des championnats d'Europe, avec Axel Raymond, champion d'Europe en titre, double champion d'Europe en titre, champion du monde, qui est le favori et qui est très surveillé dans ce peloton. On le voit des fois, ses adversaires s'arrêter pour le laisser passer et pour le laisser prendre les commandes de cette course chez les garçons. David Aubry, l'autre français dans ce 25 km, est également bien placé, donc après 3h39 d'effort.
Merci Julien, à suivre bien sûr, donc jusqu'à la fin de ces 25 km. Nous, on va évoquer le sport au niveau international, et en particulier la MotoGP.
RMC Motors.
World champion! Oh my god, I can't believe it! Thank you so much guys!
Radio Paddock.
Et pour me rejoindre dans Radio Paddock, Valentin Rodriguez. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors, il y a pas mal d'actu, on le sait, avec bien sûr le Grand Prix d'Autriche. On est sur les terres de KTM, on est sur les terres de Red Bull, et puis dans quelques instants, ce sera le départ de la course MotoGP, avec, on l'évoquait avec Jean-Luc Roy tout à l'heure, deux petits millièmes d'écart sur la grille de départ, hein, de cette course de MotoGP. Donc, encore une fois, ce sera à suivre avec beaucoup d'intérêt tout cela.
Oui, et on va parler de la Moto3, les résultats de Moto3.
Absolument.
Bien sûr, en Moto 3, c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui remporte la course devant Enea Bastianini, son compatriote, et l'Espagnol Jorge Martin qui termine troisième.
Ah oui, alors là, c'est un exploit. Là, il faut le dire. On sait que les pilotes de MotoGP, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie, sont l'expression aussi leur va très bien, des durs à cuire, mais c'est le cas. On rappelle qu'il y a une semaine, il s'est fait opérer du radius de la main gauche et on lui a posé une plaque. Il était à l'hôpital. Quand vous faisiez le tour du paddock, il n'y a pas un pilote qui disait bon, il sera capable de rouler. Non seulement il était capable de rouler, mais en plus, eh bien, il a carrément fait un podium, la troisième place. Quand on sait qu'il se bat pour le titre de champion du monde dans cette catégorie Moto 3, c'est ce qu'on appelle limiter les dégâts, puisque alors certes il n'est pas premier, mais il est à 12 points de Bezzecchi. C'est carrément un exploit, Valentin.
Ouais, un exploit de l'Espagnol. En moto 2, la course n'est pas terminée. Le départ a été donné à midi 20. Le classement, on le rappelle, de la moto 2, il est toujours mené par l'Italien, notre Italien. Ils sont là de partout.
Bah,
c'est Italiens, décidément. L'Italien Francesco Bagnaia qui devance le Portugais Miguel Oliveira et l'Espagnol Axel Marquez.
Oui, alors là, Oliveira aussi, il est chez lui à domicile, hein, il est soutenu par l'équipe KTM. On attend de lui forcément un excellent résultat. Me semble-t-il, il a mené en début de course, et c'est aussi le leader du championnat. Bagnaia, bah, c'est le deuxième du championnat. Ce sont deux pilotes qui seront la saison prochaine, on le rappelle également, en MotoGP. D'ailleurs, Oliveira dans la structure d'Hervé Poncharal, la structure Tech 3, qui, je vous le rappelle, passe également sous les couleurs KTM. La saison prochaine, donc c'est clair que on attend forcément un bon résultat. Puis ça serait sympa aussi pour cette structure d'Hervé Poncharal Tech 3 que d'avoir celui qui sera champion du monde Moto 2. Ça a été le cas c'est l'année dernière en recrutant Juan Zarco. Donc ça ferait deux champions Moto 2 qui se succèdent au sein de la structure d'Hervé Poncharal.
Une belle régularité.
Ben voilà, une belle régularité. Puis c'est toujours sympa de faire rouler des pilotes qui sont champions du monde.
On passe à Juan Zarco, notre Français, vient été un peu compliqué, notamment, on le sait, hein, il a changé d'écurie. C'est officiel depuis mai, il va changer d'écurie. C'est officiel, il va rejoindre l'écurie autrichienne, hein, KTM,
absolument,
en Corrèze, pour les deux prochaines saisons. Il se trouve que nous sommes en pleine période de développement de la moto. On sait que son écurie ne veut plus faire l'effort de développer sa moto. Lui, Juan Zarco, de son côté, n'a plus la tête à son écurie Yamaha. Donc, une question, pourquoi il n'aurait pas annoncé son départ un peu trop tôt?
Non, aujourd'hui, on annonce les départs, on a vu ça avec la Formule 1, hein, ce qu'on appelle la fameuse silly season, ou les transferts, que dans tous les sports, aujourd'hui, on annonce des arrivées et des transferts assez tôt dans la saison. Au contraire, quelque part, le pilote, il sait quel est son avenir, il peut se concentrer sur le présent, se concentrer sur les grands prix, autant avoir toute sa tête, hein, quand on pilote des engins de cette puissance, et quand même sur des circuits, encore là sur ce circuit qui pour un circuit de Formule 1, pour le Red Bull en Formule 1, le Red Bull Ring, hein, en Formule 1, il n'est pas très intéressant. En moto, on s'aperçoit qu'au contraire, il est plus qu'intéressant, vallonné, il y a des vitesses de pointe très importantes, il y a des courtes lignes droites, mais en moto, c'est quand même des lignes droites que l'on aborde, l'une à 220, l'autre à 240, 250, donc il vaut mieux avoir toute sa tête et être concentré sur son travail. Juan Zarco a eu un été effectivement un petit peu compliqué, mais quand on regarde la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche, c'est le mieux placé des pilotes Yamaha. Il est en deuxième ligne alors que Vignales est 11e sur la grille et que Rossi ne s'est même pas qualifié pour Q2, il est 14e. Donc quelque part ça va mieux. Alors il a fait des essais la semaine dernière, il y a eu deux jours d'essais après le Grand Prix de République Tchèque sur le même circuit de Brno, et bien là quelque part il a remis sa tête en place, les esprits en place, et on peut peut-être s'attendre à un beau Grand Prix de la part de Juan Zarco.
Donc sa saison n'est pas terminée.
Et non, la saison est loin d'être terminée. Il y a une place à prendre, à garder dans le top 5 du championnat avant de vivre une autre aventure que celle de KTM. C'est important de terminer le plus haut possible et pourquoi pas de terminer premier pilote Yamaha au terme de cette saison 2018.
Un petit mot juste de Sébastien Loeb, hein, qui sera de retour en WRC, vainqueur à 9 reprises du rallye d'Allemagne qui se passe du 16 au 19 août prochain. Il fera son retour dans la C3 qu'à l'occasion du rallye d'Espagne en octobre prochain.
Oui, absolument. Alors on sait que Sébastien Loeb ne veut plus lui vivre une saison complète de championnat du monde des rallyes. C'est d'ailleurs pour cela, on l'a évoqué tout à l'heure avec Sébastien Ogier, que Sébastien Ogier est en contact avec Citroën Racing, avec Pierre Boudard, pour être pourquoi pas le patron de cette équipe en termes de pilote. Mais Sébastien Loeb, il a son programme court, un petit peu comme l'on dirait en patinage, et ce programme court passe effectivement par désormais deux rallyes qui se disputent sur asphalte, dont tu l'as dit, le rallye d'Allemagne qui fut son territoire pendant effectivement de très nombreuses 9 victoires, dont 8 successives. Bien sûr, c'est important pour Citroën parce qu'il va sans doute permettre à la marque de marquer des gros points. C'est important aussi dans les enjeux à côté. On en a parlé avec Sébastien Ogier, qui lui joue le titre de champion du monde. Un pilote comme Sébastien Loeb peut éventuellement le priver de points si tant est que la course ne se passe pas devant pour Sébastien Ogier.
Bah écoutez, merci beaucoup.
Eh bien merci à toi, Valentin.
T'as pris une leçon là.
Merci à toi surtout, Valentin, de nous avoir rejoint donc pour Radio Paddock. Bien sûr, l'après-midi sportive, on l'a vu avec Julien Richard, n'est pas terminée. Dans quelques instants, ce sera l'Intégral Sport avec Jean-Christophe Drouet.